L'actualité oblige. Panorama économique consacre aujourd'hui le gros de son temps à la taxe sur la valeur ajoutée. Plusieurs rencontres ont eu lieu cette semaine pour expliquer davantage la TVA. Nous revenons sur les concertations entre la Fédération des entreprises du Congo et le gouvernement congolais initié par le ministre des Finances, le même ministre des Finances qui a animé également un point de presse cette semaine et aussi la compréhension du consommateur final qui supporte cet impôt. Le mois de décembre 2011 n'a pas été clément pour les activités économiques en RDC. Le ralentissement connu au cours de ce mois a sensiblement réduit la confiance des chefs d'entreprise présents en RDC. Ceci selon les résultats d'une enquête de la Banque centrale du Congo publiée en début de cette année. La première phase des projets exécutés dans le cadre du Fonds de consolidation de la paix en RDC arrive à terme. Il ressort de l'évaluation jeudi du comité de pilotage que 7 millions d'euros des fonds alloués à cette première phase ne sont pas utilisés, mais dans l'ensemble, les projets ont été bien réalisés malgré quelques failles dans la gestion des ressources. Bienvenue à vous tous à ce premier numéro de Panorama économique sur Radio Okapi pour l'année 2012. Nous recevons deux invités pour des analyses et commentaires. Le premier invité est avec nous au studio, c'est le directeur général adjoint des Doualies Actives, M. Gabriel Mepou. M. Gabriel, bonjour.
Bonjour.
Et le deuxième invité est assistant à l'Université de Kinshasa, expert en économie. Il s'appelle Crispin Malingoumou, il est au téléphone. Monsieur Crispin, bonjour.
Bonjour.
Et devant ce micro, Daniel Tambizoni et Agathe Ponaïma pour vous présenter le premier panorama économique de l'année.
Panorama économique, le dossier.
Il y a eu insuffisance dans la communication et information sur la TVA et c'est ce qui serait à la base de la mauvaise application de cet impôt sur terrain avec comme effet collatéraux la hausse des prix des biens et des services, Agathe.
C'est en substance ce qu'on pouvait retenir des doléances des délégués provinciaux de la Fédération des entreprises du Congo. Ils les ont exprimées lundi au cours d'une concertation entre le gouvernement et la FEC, initiée par le ministère des Finances. Matata Ponyo, quant à lui, s'est entretenu avec la presse jeudi dernier. Il est accompagné des directeurs généraux des régies financières. Il a mis l'accent sur les avis d'assujettissement, documents qui autorisent une structure économique à collecter la TVA. Dieudonné Locadier, directeur général de la DGI. On l'écoute.
Pour que quelqu'un puisse facturer la TVA, il faut qu'il ait un avis d'assujettissement. C'est l'autorisation que l'administration lui donne de pouvoir collecter et récupérer le droit qu'il aurait supporté au niveau de la douane et au niveau d'autres prestations où il a eu à payer la TVA quelque part. Mais à l'absence de ce document, on n'est pas autorisé. Donc, même si vous avez un chiffre d'affaires de 100 millions ou de 200 millions, du moment où vous n'avez pas l'avis d'assujettissement, vous n'êtes pas autorisé. Si vous voulez participer au mécanisme, vous devez vous signaler auprès de l'administration fiscale qui va vous donner. Vous allez peut-être vous demander comment vous allez vous faire signaler. Vous allez introduire une demande d'assujettissement.
Du ministère des Finances, rentrant dans le studio de Radio Okapi où se trouve Gabriel Mepou, il est directeur adjoint à la Direction Générale des Douanes et Accises. Monsieur Mepou, beaucoup à dire certainement sur la TVA, mais commençons par cet avis d'assujettissement. Pouvons aussi dire qu'une maman maléoua ne peut aussi collecter la TVA.
Non, je pense justement que c'est là où le bas blesse, parce que quand on a démarré avec la mise en œuvre de la TVA, on a constaté que même les non-assujettis étaient en train de collecter la TVA. Pour collecter la TVA, comme vient de le dire monsieur le directeur général des impôts, évidemment ça c'est au niveau des impôts, hein, il faut avoir cet avis d'assujettissement. Donc c'est un document que l'administration fiscale envoie à la personne qui doit collecter la TVA. Bon, évidemment, ce qui s'est passé, ce qu'on a constaté, c'est que même les personnes qui n'avaient pas cet avis d'assujettissement étaient en train de collecter la TVA. Maintenant, en ce qui concerne nous, la douane, chez nous, les choses se passent un peu différemment, parce que nous, comme vous le savez, nous sommes à la frontière. En ce qui concerne la TVA à l'importation, on a, c'est toutes les marchandises qui franchissent la frontière, sauf celles qui sont exonérées expressément par la loi, ou alors celles qui bénéficient des mesures de suspension provisoire. Donc ici, par exemple, je peux citer, en ce qui concerne les cas de suspension, le gouvernement a pris des mesures pour suspendre la perception de la TVA sur le blé, sur le pain, sur le fourmi, donc le fuel oil, mais aussi sur le lait et les préparations alimentaires pour enfants.
Oui.
Voilà les produits au niveau de la douane. Quand ces produits-là sont importés, ces produits bénéficient, n'est-ce pas, des mesures de suspension.
Et nous pouvons dire que déjà, depuis le premier, cette disposition est appliquée sur tous ces produits-là qui viennent de l'extérieur. On ne perçoit pas la TVA sur ces produits-là. Mais lorsque moi, consommateur, par exemple, je vais dans un magasin, dans un supermarché, j'achète ce produit-là et que je vois sur ma facture, la TVA est perçue. Comment je réagis?
Bon, je pense que la première des choses, c'est très important, quand vous entrez dans une alimentation ou dans un magasin, vous devez vous assurer que l'alimentation est autorisée à collecter la TVA.
L'avis d'assujettissement doit être affiché.
Doit être affiché. En dehors de cela, il faut regarder sur la facture. Parce que dans les magasins ou dans les alimentations où on collecte la TVA doit apparaître clairement, distinctement sur la facture.
Alors, monsieur le deuxième, et peut-être avant de revenir à vous, nous allons aller à l'université de Kinshasa où se trouve l'assistant Crispin Malingumo. Crispin, à ce stade d'analyse, ce n'est pas tout le monde qui doit collecter la TVA. Qu'est-ce que vous, en tant que scientifique, vous pouvez dire à ce stade?
Bon, on peut dire ceci à ce stade. Si il se pose plusieurs problèmes dans l'application de la TVA, c'est plus que d'abord la stratégie de communication n'a pas été bonne au niveau de l'administration fiscale. Autrement dit, l'administration fiscale s'est contentée uniquement d'intégrer dans sa stratégie de communication les administrations et services du ministère des Finances, de l'économie, du portefeuille, bref, les services publics, mais aussi cette même administration a intégré dans cette stratégie de communication des opérateurs économiques à travers des matinées fiscales et des émissions télévisées. Mais néanmoins, disons, les personnes les plus intéressées, c'est-à-dire les contribuables, n'ont pas été intégrées dans cette stratégie.
S'il vous plaît, monsieur Christin, nous revenons sur le plateau, monsieur le DGA. La question, la voici. Au mois de décembre, je vais dans un supermarché de Kinshasa. Le pain, il coûte 2000 francs. Le 2 janvier 2012, je vais, le pain, il coûte 2300 francs congolais. Mais là, vous venez de dire que le pain n'est pas concerné par la TVA. Comment je réagis?
Mais justement, je pense que, en tant que journaliste, comme vous le savez, nous pensons que la presse constitue le quatrième pouvoir. Donc, vous devez, en principe, jouer aussi votre rôle, les dénoncer, d'informer les services compétents pour que cet opérateur économique soit effectivement interpellé. Bon, en réalité, je voulais aussi réagit par rapport à l'intervention
de Crispin
pour dire que les contribuables ont fait bel et bien objet de la stratégie de communication de la DGI.
Bon,
je pense que
ce qui a été... Monsieur le DGI, oui. Je ne voulais pas vous couper la parole, mais oui. Je préfère qu'on retourne à la régie pour écouter comment les Congolais comprennent ce qu'est la TVA, quelles difficultés ils ont rencontrées avec cette TVA avant qu'on aborde ces volets de la communication dont il est question.
Cette taxe, la TVA a été mal appliquée. Il fallait d'abord sensibiliser la population pendant plusieurs mois, nous expliquer comment fonctionne la TVA et ainsi de suite. Mais justement, on a vu seulement la TVA appliquée, la flambée des prix, donc on regrette beaucoup.
C'est un manque d'information parce qu'on est plus préoccupé par le vécu quotidien. On s'intéresse de moins en moins à des choses qui, à la longue, auront des répercussions sur notre mode de vie quotidien.
Maintenant, dans le magasin, on a des sommes à parasoleil. Finalement, il y en a 12 828. Bon, il y a une TVA 2052. On a foutu 14 880. Ok, TVA, il y a une population qui a foutu à ou bien, ba ningele o ba kufuta na uleta. Kwa tuzo kompoze biso populasyon tuzo sufi, loko la 2000 oyo. Ba nangala wiko yalo sote na kendo futa su TVA na futa la, ningele wana epa ya leta.
Pour le moment, TVA oyo. Soki nana ba matisi salaire te, ke ba o ba salaka, ba zala kapable ya ko yeba o sala yango. Biso to lobi, ezali su TVA te, e komi TMA. C'est-à-dire, taxe sur le malheur ajouté, c'est ça.
Ça fait bien rire, monsieur le DGA, mais voilà.
Et là, c'est la vie de l'homme de la rue, du Congolais, quinois moyen.
qui dit que la communication, qui lui aussi dit que la communication n'était pas assez suffisante à ce niveau.
On a assisté effectivement au début du mois de janvier à un emballement de prix sur le marché, mais les analyses qui ont été faites, c'est que l'emballement des prix n'est pas dû uniquement à la mise en œuvre de la TVA. Il y a eu un effet conjugué lié à la dépréciation de la monnaie congolaise face au dollar, mais aussi il y a eu effectivement la mise en œuvre de la TVA qui a posé des problèmes. À notre humble avis, quand on parle de la communication, la DGI qui s'occupe particulièrement de la collecte de la TVA à l'intérieur a organisé des séminaires de formation, a organisé des matinées fiscales qui sont allées jusqu'au niveau même des provinces. Mais je pense que dans la stratégie qui avait été adoptée au départ, non seulement il y avait les administrations cibles, mais aussi la DGI s'est focalisée sur les assujettis justement.
Mais ce sont ces mêmes assujettis, avec toutes ces matinées fiscales, on a vu que les provinciaux, les délégués provinciaux de la FEC sont venus ici à Kinshasa, ils ont dit qu'il n'y avait pas assez d'informations.
Non, mais ils ont quand même reconnu que la vulgarisation est allée jusqu'au niveau de chaque chef-lieu de province. Mais là, il leur appartenait, pendant que la DGI organisait les séminaires de formation au niveau des chefs-lieux, d'envoyer des participants.
Voilà. On va retrouver Crispin. Ouais. On retrouve Crispin. Vous avez suivi dans cet élément-là la population qui dit tant que le salaire n'est pas encore réajusté à la hausse, ce n'est pas la peine d'appliquer la TVA. Il serait même mieux de retirer l'application de la TVA. Est-ce qu'il y a un rapport entre la TVA et le salaire?
Bon, lorsque, par exemple, on revient sur les propos de son excellence, monsieur le ministre des Finances, lui-même a montré que parmi les missions ou les objectifs que poursuivait le gouvernement en mettant en place cette TVA, c'est dans le but de pouvoir augmenter les recettes ou accroître les recettes publiques, dans le but enfin de pouvoir améliorer la politique salariale ou les salaires des fonctionnaires de l'État, mais aussi les dépenses sociales. Donc il y a un lien exactement comme on venait de le dire. Donc les liens existent.
Lequel viendrait avant l'autre entre le salaire et l'application de la TVA?
Non, le problème qui s'est posé, c'est tel que la TVA a été appliquée, en principe, la TVA ne pouvait pas avoir créé une si grande cacophonie au sein du marché, non. Si elle était appliquée telle qu'il se devait, ou si la politique de communication ou la stratégie de communication était bonne, elle ne pouvait pas poser trop de problèmes. Le problème a été posé du fait de l'absence de communication. Et pour revenir sur les arguments que venait de donner M. la DGA sur les effets qui expliqueraient cette augmentation des prix, on ne peut pas dire qu'en décembre ou en décembre au début de l'année, il y a eu dépréciation du franc congolais. Non, c'est plutôt nous avions assisté à un phénomène d'appréciation. Le seul élément que nous pouvons ajouter, donc, on a remarqué qu'il y avait une appréciation du franc congolais par rapport au dollar, ce qui fait qu'en réalité, la monnaie ne pouvait pas avoir une incidence sur
la hausse des prix.
Sous le prix. Le seul effet que nous pouvons identifier au niveau du prix, c'est seulement le fait qu'il y a eu des anticipations suite à l'incertitude qui caractérisait la période que nous venions de passer. Mm-hmm. Cette incertitude qui a poussé plusieurs opérateurs économiques, ne sachant pas quelle sera l'évolution du lendemain, ils se sont précipités, certains se sont précipités à pouvoir augmenter les prix, et à cela s'est ajouté la mauvaise application de la TVA.
Voilà, merci beaucoup Crispin. On va boucler ce premier dossier avec la TVA. Mais monsieur le DGA, vous avez un message en tant que régie financière chargée de collecter la TVA pour le trésor public. Adressez-vous à ces Congolais qui vous écoutent. Répondez en quelques minutes aux préoccupations de ces Congolais qui ne comprennent rien de la TVA.
Et aussi aux importateurs qui sachent le bien fondé, puisque vous êtes aux frontières, qui sachent le bien fondé de cet impôt, par exemple.
Merci beaucoup. Mais avant de donner le message aux importateurs, je voulais juste réagir rapidement.
Très rapidement.
Au problème de la dépréciation monétaire, parce que nous avons été en réunion avec même le Premier ministre. Il nous a dit qu'il y a eu une réunion avec la Banque centrale où la Banque centrale a reconnu qu'il y a eu dépréciation et la Banque centrale s'est engagée d'ailleurs à vendre des devises sur le marché pour essayer de stabiliser la monnaie. Donc cet effet, il y a donc eu effectivement un effet conjugué. La dépréciation de la monnaie, mais aussi de la mise en œuvre de la TVA. Alors, en ce qui concerne la mise en œuvre de la TVA, donc je disais que il y avait communication. Peut-être qu'on n'a pas ciblé la population.
Souvent, cette sensibilisation se font dans des salons UP de Kinshasa au Grand Hôtel, à Menin, et puis bon,
le public élitiste, voilà.
Non, on a ciblé les assujettis. Parce que vous savez que même s'agissant du régime antérieur en matière d'ICA, c'est pas tout le monde qui connaissait qu'est-ce que c'est.
Mais la TVA, c'est tout le monde qui la paye. C'est ça le problème.
Non. Mais justement, nous disons que il n'y a que les assujettis qui doivent récolter la TVA. Alors, par rapport aux importateurs, je pense que chez nous, à la douane, le mode de calcul de la TVA n'est pas compliqué. Donc, notre passage de l'ICA à la TVA s'est fait sans beaucoup de douleur parce que le mode de calcul était le même. Par contre, au niveau de la DGI, le plus grand problème que nous avons observé, c'est que les personnes ont taxé la TVA sur l'ICA. Ils n'ont pas neutralisé au préalable l'ICA.
On peut espérer que dans les jours, les semaines qui viennent, les choses vont s'arranger et il y aura une certaine accalmie sur le marché, sur les prix certainement.
Absolument, parce que toutes les dispositions ont été prises. Par exemple, si vous prenez le cas de la douane, selon la douane, c'est depuis 2002 que nous avons relevé le niveau de l'ICA à 15%. Pour préparer la mise en œuvre de la TVA. Depuis 2002. Donc, on a préparé les choses de telle manière que la population s'habitue. 10 ans après, on est passé de 15% pour tous les produits de grande consommation à 16%. Évidemment, il y a des produits qui étaient taxés à 3%, notamment le lait, comme je l'ai dit. On a suspendu de manière provisoire la perception de la TVA sur le lait.
Alors,
donc, en principe, il ne veut pas y avoir d'augmentation
exagérée
des prix.
Mais lorsque la mesure provisoire va être levée, en tout cas, c'est encore des prix sur le lait et les autres produits. Bien, merci beaucoup, monsieur le DGA. Le temps va certainement nous faire défaut.
La balle est en tout cas du côté du gouvernement pour effectuer les contrôles.
On communiquera encore beaucoup sur la TVA, même pour tout le semestre. Et vous serez toujours le bienvenu à Panorama économique sur Radio Capi. Et c'est le moment de prendre le deuxième dossier de la semaine, Agathe. Le mois de décembre 2011 était plus difficile pour les chefs d'entreprise établis en RDC.
Tous les paramètres de l'activité économique en RDC étaient au rouge. La confiance des chefs d'entreprise est passée de 5,7% au mois de novembre à moins 27% en décembre. Selon un communiqué de la Direction générale de la politique monétaire et des opérations bancaires à la Banque centrale du Congo, publié en début de ce mois, deux facteurs expliquent le ralentissement spontané de la conjoncture économique de décembre dernier.
Ces causes sont externes et internes. S'agissant de causes exogènes, l'effritement de la confiance des chefs d'entreprise se justifie par l'ombre de la récession qui plane sur les partenaires commerciaux de la RDC, aussi bien dans la zone euro qu'aux États-Unis d'Amérique. C'est une crainte pour tout le premier trimestre 2012, indique le communiqué. À l'interne, l'activité économique dans son ensemble est affectée par la psychose sociopolitique d'après les élections de novembre dernier. Pour les entrepreneurs, la conjoncture économique du Congo est moins favorable et présente des perspectives incertaines à court terme. L'optimisme dans les industries extractives a nettement reculé, passant de plus de 31% au mois de novembre à 3% au mois de décembre. Les entrepreneurs du secteur des industries manufacturières ont été les plus touchés. Leurs opinions sont passées de plus de 15,4% à moins 15,9% en décembre. Même situation dans le secteur des services, moins 66,7% en décembre contre plus 18,2% au mois de novembre. Non épargné, le secteur de la reconstruction connaît une détérioration lui aussi, alors qu'il était déjà négatif, moins 53,9% en décembre contre moins 22,6% en novembre. Nous retrouvons en ligne de téléphone depuis l'Université de Kinshasa, M. Crispin Malinkoumou, assistant. Ralentissement des activités au mois de décembre et puis la Banque centrale qui publie les résultats de cette enquête. À quoi peut servir une enquête comme celle-là, relever seulement ce qui n'a pas marché?
Oui, cette enquête est très importante en ce sens qu'elle permet de pouvoir connaître l'opinion des opérateurs économiques sur la confiance qu'ils mettent dans l'évolution de l'environnement macroéconomique. Donc, c'est une enquête qui est plus importante.
Et puis, la crainte, elle est là, hein, c'est pour tous les premiers trimestres 2012.
Oui, la crainte est là. C'est comme la banque venait de le dire. Je suis parfaitement d'accord avec les deux causes que la banque a énoncées. D'abord, nous savons que depuis pratiquement toute l'année 2011 qui vient de s'achever, la zone euro vit dans une situation
de tourbillon.
Souveraine. Oui. Et cette crise de la dette souveraine entraîne une baisse de la demande de nos produits d'exportation. Donc on comprend que le fait de l'accentuation de cette crise-là au niveau de nos partenaires commerciaux a des répercussions sur le comportement de la production au niveau interne.
Mais sur le plan interne, la psychose après les élections de novembre dernier n'encourage pas encore les entrepreneurs ici en RDC.
Bon, mais les entrepreneurs devaient en principe s'apaiser, ils devaient s'apaiser. Mm-hmm. Tous les risques qui voulaient peser sur la nation s'écartent de plus en plus. Donc, à mon avis, l'avenir qui semblait être plus sombre s'éclaircit de plus en plus. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter.
Merci Christian et au studio Agathe, vous avez une question.
Oui, Monsieur Moëpo est avec nous. Est-ce que au niveau de la douane, ce ralentissement a-t-il été aussi observé?
Effectivement, au niveau de la douane, au mois de décembre de l'année dernière, nous avons ressenti une baisse des recettes par rapport au mois de novembre. Nous sommes passés pratiquement de 86 milliards de francs réalisés au mois de novembre à 79 milliards au mois de décembre.
C'était énorme quand même.
Oui, c'était une baisse liée au fait qu'il y avait un attentisme, justement.
Oui.
La plupart des importateurs qui avaient effectivement passé des commandes préféraient garder leurs marchandises dans certains ports à l'extérieur, en attendant de voir s'il n'allait pas y avoir des pillages, justement. Bon, mais nous pensons que, évidemment, il y a les résultats des élections présidentielles qui ont été proclamées.
Oui.
Il n'y a plus de raison majeure pour que le même attentisme puisse persévérer.
Donc, la DGDA demande aux opérateurs économiques de venir en RDC.
Absolument, de ramener les marchandises qu'ils gardaient dans les ports à l'extérieur.
Alors, nous prenons rapidement le dernier dossier de la semaine pour parler de l'évaluation de la première phase de projets qui sont financés dans le cadre du fonds de consolidation de la PNRDC qui arrive à terme.
Le comité de pilotage de ce fonds s'est réuni jeudi pour examiner les différentes réalisations et relever les difficultés rencontrées. Constat, bonne avancée des réalisations malgré les faiblesses dans les chefs des promoteurs de projets dans la gestion des ressources. Reportage.
Cette première phase qui s'achève a bénéficié de près de 60 millions de dollars américains. Au total, 45 projets ont été financés dans 4 provinces, à savoir Kinshasa, les deux Kivu et le Maniema, au bénéfice des secteurs de l'agriculture, des travaux publics, des infrastructures économiques et sociales. Hans Hagen est le coordinateur technique du Fonds pour la consolidation de la PNRDC.
De ces 60 millions de dollars, plus que 40 millions investis directement dans les ouvrages que nous réalisons et la partie au-delà des 60 millions pour les exécutants administratifs, pour nous comme gestionnaires.
La mission assignée au Fonds de consolidation de la paix était, entre autres, redynamiser l'économie locale par la création de l'emploi. En rapport avec ce volet de sa mission, dites-nous, Monsieur Hans, combien d'emplois le fonds a généré?
Nous avons employé durant le temps du projet 35 000 personnes, ce qui correspond à 12% de l'investissement en finance déjà.
La deuxième phase de la mise en route des projets dans le cadre du fonds de consolidation de la paix en RDC démarre dans quelques mois. Mais les fonds mis à la disposition de la RDC pour la première phase n'ont pas été tous absorbés. 7 millions d'euros sont restés. Faut-il ici parler de l'incapacité du Congo à absorber les fonds mis à sa disposition? Le ministre du Plan, Olivier Kamitatou, ne voit pas les choses sur cet angle.
Les fonds qui sont engagés, ça veut dire qu'il y a des procédures. Il faut respecter ces procédures. Il y a déjà des facturations qui sont émises, des appels d'offres qui sont en train d'être lancés. Donc ce sera fait, c'est déjà bien planifié dans le temps. Au contraire, ça montre qu'il y a eu un souci de dépenser l'argent le plus correctement possible. Il n'y a pas de précipitation. Il y a même un reliquat qui va rester en attendant peut-être qu'il pourra faire la soudure avec la deuxième phase.
À cause du retard dans le traitement des dossiers par les officiels congolais, la coopération financière entre la RDC et son partenaire risque de connaître une suite pas favorable. C'est le cas du dossier GIZ qui attend toujours la signature des autorités.
Panorama économique sur Radio Okapi, Crispin Malinkoumou est avec nous depuis l'Université de Kinshasa, il est au téléphone. Crispin, un grand projet comme celui-là, sa première phase arrive à terme, mais bon, quand même, 7 millions d'euros ne sont pas consommés par la RDC. C'est là où on peut parler d'un faible pouvoir d'absorption des fonds disponibilisés pour la RDC.
Non, on ne peut pas parler d'un faible pouvoir, puisque si la RDC a pu consommer 53 millions de dollars dans les projets, c'est déjà louable, nous sommes déjà au-delà de 80% d'absorption des fonds mis à sa disposition. Donc c'est déjà louable.
C'est bon, donc vous partagez l'avis du ministre Olivier Kamitatou, mais par rapport, vous savez, on est passé de GTZ à GIZ dans le cadre de la coopération allemande avec la RDC, mais certains dossiers traînent dans les bureaux des officiels et il était relevé que si ces dossiers ne sont pas signés à temps, la coopération financière pourrait en souffrir. Le traitement des dossiers.
Le retard du traitement des dossiers n'est pas seulement observé au niveau de la classe politique congolaise, mais même au niveau des partenaires au développement, puisque nous savons qu'ils ont des procédures qu'on doit respecter. Donc, le retard n'est pas seulement du côté congolais.
Monsieur Gabriel, me trouve un commentaire.
Effectivement, je pense que dans notre coopération avec nos partenaires extérieurs, il se pose toujours ce problème des procédures que nos partenaires nous imposent, qui sont généralement très longues, mais aussi parfois on constate qu'il y a aussi ce qu'on appelle les conditionnalités, qui font que généralement on n'arrive pas à épuiser tous les crédits qui disponibilisent, quoi. Mais toutefois, le fait qu'on ait consommé plus de 50 millions d'euros,
c'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup. Je pense que, comme a dit Crispin, c'est un beau taux de
d'absorption.
Le financement, il passe de 60 millions de la première phase à 20 millions pour la deuxième phase qui va commencer fin mars, début avril. C'est un décalage quand même grand et nos partenaires ils disent que le contexte en 2006-2007 n'est plus le même que celui de 2011-2012.
Tout naturellement, c'est pour ça d'ailleurs que nous disons qu'il faut introduire des réformes comme celle de la TVA. Parce qu'il ne faut plus compter sur de la même manière sur les partenaires extérieurs, parce qu'ils sont dans un contexte international défavorable.
Mm-hmm. Il faut gérer la crise en interne, oui.
La dette souveraine, il faut générer le maximum à l'intérieur.
Nous allons prendre le dernier virage du panorama économique.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
En plus bref, le reste de l'actualité économique de la semaine, le transport des marchandises entre Dilolo dans le Katanga et les deux Kasaï, un véritable problème.
Et pour cause de la dégradation avancée des deux ponts jetés sur les rivières Ndembo et Lushiji sur la seule route de desserte agricole, le président de la Fédération des entreprises du Congo section Dilolo nous l'a dit. L'info est confirmée par l'administrateur du territoire de Dilolo, mais qui indique que la réhabilitation de ces ponts implique de grands moyens que son administration n'a pas.
Mardi, nous parlions de la ville de Bandundu, dotée de son tout premier comptoir d'achat et de vente de diamants artisanal.
Ce comptoir est créé par l'ONG Fondation Maurice depuis le week-end dernier pour aider les négociants, creuseurs et acheteurs d'avoir un lieu de négoce et d'échange de cette pierre précieuse. C'est aussi une bouffée d'oxygène pour la division des mines sur place qui y trouve un moyen d'évacuer la production artisanale du diamant.
Terminons cette série par cette réaction mercredi du projet d'appui au secteur minier de la RDC.
Lorsqu'on ne dispose plus de mines en RDC et n'a rien à vendre à qui que ce soit, c'est en ces termes que le coordonnateur national adjoint du projet d'appui au secteur minier de la RDC, Promine, a réagi à la dépêche de Radio-Canada du 5 janvier relayée par Écho d'économie de Radio Okapi. Selon la Radio-Canada, First Quantum vend ses mines en RDC pour 1,25 milliard de dollars américains. Ce montant que va empocher First Quantum, selon l'EMS Camoignan, découle de l'arbitrage international.
Et c'est la fin de Panorama économique, mais avant de le boucler définitivement, nous allons redonner la parole à nos invités.
on termine par où on a commencé, c'est-à-dire on termine par la CEA, puisqu'elle fait l'actualité. Monsieur Crispin, vous êtes assistant à l'UNIKIN, expert en économie. Vous pouvez dire en quelques minutes un petit mot sur la CEA avant de nous séparer.
Oui, avant de dire un dernier mot, permettez-moi que j'ajoute un mot sur la baisse de l'aide allemande face à la RDC.
Rapidement alors.
Oui, donc nous devons noter ceci, que cette baisse n'est pas seulement due au fait que la RDC a eu des reliquats sur l'aide qui a été mise à sa disposition, non.
Non.
Ouais. Ça est dû à la politique d'austérité appliquée dans les économies de la zone euro, puis le poids de l'endettement public.
Des nations de la zone euro.
Oui, cette politique d'austérité qui conduit à la révision de leur politique de soutien financier aux États, aux pays en développement. Quant à ce qui concerne la
TVA,
donc nous tous nous devons nous sensibiliser que le gouvernement ne cesse de prendre des mesures pour pouvoir remettre les choses à l'ordre, et je l'espère personnellement que ça pourra aller.
Vous estimez qu'on ne peut pas avoir des omelettes et sans casser les yeux, c'est ça?
À tout prix.
Alors, la pilule à mer.
Voilà, nous allons terminer par le directeur adjoint de la DGDA, M. Gabriel Mepou. On termine par la TGA. Un message à tous ces consommateurs qui sont en train de s'arracher les cheveux.
Non, nous les tranquillisons, parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, les dispositions ont été prises par le gouvernement pour éviter que le niveau de prix ne puisse pas augmenter sensiblement.
Y a-t-il des sanctions dans ce sens?
Avant de passer à la sanction, il y a des missions qui ont été programmées, que nous allons mener conjointement avec le ministère de l'économie et la direction générale des impôts pour une pédagogie, essayer de faire comprendre ce que c'est la TVA. Mais aussi, nous allons intensifier la vulgarisation, et c'est là où la presse, le quatrième pouvoir, doit nous aider.
Économie et panorama économique, le quartier est toujours disposé.
Mais après cela, évidemment, il y aura des missions de contrôle, des prix et contrevenantes seront sanctionnées.
Dans vos différentes missions, pensez aussi à la population qui pense que les salaires devraient aussi suivre le mouvement de la hausse. Comme ça, on s'est trouvé un équilibre.
Ou bien encore l'opinion qui estime que la RDC n'est pas prête à recevoir cette réforme.
Mais je pense que nous avons préparé l'économie congolaise à recevoir la réforme de la TVA. Nous avons indiqué que c'est depuis 2002 que nous avons relevé le taux de l'ICA à 15% sur tous les produits.
Les opérateurs économiques ont compris ça, mais les consommateurs, il n'y avait pas eu des actions orientées vers les consommateurs.
Non, le plus grand problème, c'était justement au niveau des distributeurs. Parce que les grands importateurs ont effectivement répercuté l'augmentation tout simplement de 2 à 3% sur le prix.
Ce qui est normal.
Ce qui est normal. Par contre, ce sont les distributeurs, donc ceux qui achètent auprès des grands importateurs, qui n'ont pas eu le temps matériel, je pense, ou qui n'avaient pas bien maîtrisé les choses, pour neutraliser d'abord l'ICA, de telle manière que qu'on puisse appliquer uniquement la TVA sur ces produits-là.
Merci beaucoup, M. Gabriel Mouepou, et c'est ainsi que nous terminons Panorama économique de cette semaine. Merci aussi à vous, Crispin Malingoumou. Retrouvez cette émission pendant toute la semaine sur www.radioocapi.net. Très bonne suite de programme sur la Radio de la Paix.